7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Au programme aujourd'hui, séance de mathématiques avec l'enseignante Laurence Girard-Guilaine. Et si vous décriviez votre famille en pourcentage? Dans la deuxième partie de l'émission, la comédienne Héloïse Auria nous racontera La Lune errante de Dany-Laure Nazalé, publié chez L'Harmattan dans la collection Contes des quatre vents. Et puis le coach de 7 milliards de voisins, Didier Acouetté, donnera ses conseils à ceux d'entre vous qui se demandent s'ils doivent diversifier l'activité de leur entreprise après la crise. Une émission réalisée comme chaque jour en direct avec une équipe en télétravail, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac et en studio Nicolas Benita et moi-même. Nous attendons vos réactions, vos questions, vos messages écrits ou audio sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
Salut 7 milliards de voisins, je m'appelle Ablaye, un Sénégalais vivant à Nouakchott, âgé de 31 ans. Vraiment, votre émission nous démontre à chaque fois l'importance d'aller à l'école. Votre cours sur les règles de 3, j'ai bien compris la leçon. Parce que la règle de 3, on peut l'utiliser dans la vie. Nous les étrangers, par exemple, ceux qui vivent à l'extérieur de leur pays, comme nous qui sommes en Mauritanie, des fois on envoie de l'argent au Sénégal pour la famille. Pour que mon père reçoive 5000 francs CFA, je vais appliquer la règle de 3. C'est-à-dire je vais faire 3500 ougia multiplié par 75 000 francs CFA divisé par 5000 francs CFA. Ça me donne 52 500 ougia. Ciao, bye, à la prochaine, Inch'Allah.
Problème sur la règle de 3. Le premier énoncé dit 3 épis pour 2 poules, sachant que j'ai 10 poules au total. Combien d'épis devrais-je distribuer au total pour nourrir toutes ces 10 poules? Qu'est-ce que je cherche? Le nombre d'épis. Donc 3, parce qu'on dit 3 épis pour 2 poules. À quoi correspond ces 3 épis? 2 poules. Donc 3 divisé par 2. Multiplié par quoi? Multiplié par la dernière valeur que j'ai dans l'énoncé qui est 10. Je me retrouve avec 3 fois 10 divisé par 2. 3 fois 10, 30 divisé par 2, 15 épis au total à distribuer pour nourrir ces 10 poules. Merci.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
On vient de l'entendre à travers les messages d'Abdoulaye et de Ralph. Vous avez bien compris la règle de 3 et c'est une bonne nouvelle parce que vous allez en avoir besoin aujourd'hui pour calculer les pourcentages appliqués à votre famille. C'est le nouveau défi lancé par Laurence Girard-Guilaine. On vous explique tout dans un instant. Mais auparavant, je vais vous lire quelques messages que nous avons reçus. Brice de Yaoundé nous écrit « Les pourcentages, ça me rappelle les résultats du baccalauréat D qui me firent trembler car je vis que le taux de réussite était de 23% et le taux d'échec de 77%. Brice ne précise pas s'il a finalement obtenu son bac D, on espère que oui. Moussa de Bamako nous écrit « Nous utilisons les notions de pourcentage en statistique pour le calcul de la population, du PIB, le produit intérieur brut en fait, dans plusieurs domaines. » Et pour Pauline à Lomé, les pourcentages et la règle de 3 sont des casse-têtes. On essaie dans la vie courante de les laisser au commerçants sans nous laisser voler quelques centimes. Laurence Girard-Guilaine, bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors vous allez tout faire pour rassurer Brice et Pauline pour que les pourcentages et la règle de 3 ne soient plus des casse-têtes. Mais on va d'abord préciser le matériel dont nos auditeurs ont besoin pour cette séance que vous avez préparée. Alors pour les plus grands, eh bien, il faut avoir revu cette fameuse règle de 3. Pour les plus jeunes, vous utiliserez vos mains. Et pour tous, il va vous falloir beaucoup d'attention, une ardoise ou une feuille pour écrire. Laurence, dans un premier temps, on va apprendre à multiplier rapidement un nombre par 10, par 100 et jouer avec les pourcentages pour découvrir la composition de sa famille.
Exactement, Chantal. Nous allons donc, avec les plus jeunes, commencer par apprendre comment multiplier rapidement un nombre par 10 et par 100. mais les plus grands vont pouvoir en même temps réviser, car ils en auront besoin juste après.
Il faut peut-être rappeler ce que veut dire multiplier.
Ah oui, multiplier, c'est avoir la même quantité plusieurs fois. Si on multiplie par 10, on a 10 fois une quantité. Par exemple, pour faire 10 fois 2, c'est 2 plus 2 plus 2, etc. 10 fois. On va donc pouvoir utiliser nos 10 doigts. C'est très simple comme ça. Donc, en vous aidant de vos doigts, les enfants, vous allez ajouter à chaque fois 2 quand vous levez un doigt. Donc on y va, première main. Vous levez le pouce, 2. Puis l'index, 2 et 2, 4. Le majeur, encore 2, 6. L'annulaire, 8. L'auriculaire, 10. Et vous continuez avec votre deuxième main. Le pouce, 12. L'index, 14. Le majeur, 16. L'annulaire, 18. Et enfin, l'auriculaire, 20. Donc, vous avez bien levé 10 doigts. À chaque fois, vous avez ajouté 2. On peut donc dire que 10 fois 2, ça fait 20. On peut le refaire rapidement pour trouver le résultat de 10 fois 5. Donc, je vous laisse lever les doigts et compter, cette fois-ci, de 5 en 5, puisqu'on ajoute 5 à chaque fois. C'est parti, vous le faites, les enfants? Chantal, vous le faites avec moi?
Ah, je le fais aussi. Alors, 5,
5,
10,
10,
15, 20, 25,
30,
35, 40,
45 et
50.
Et 50, voilà. Donc 5 fois 10, c'est égal à 50. Je vous laisse utiliser la même méthode pour faire 20 fois 10. Cette fois-ci, il va donc falloir compter de combien en combien ?
De 20 en 20.
Bravo, de 20 en 20 en effet.
Alors allez, on y va. Alors, je lève donc mes doigts un à un et à chaque doigt représente 20. Donc, je lève le premier doigt 20.
Oui, 20.
40.
40.
60.
60. Vous le faites en même temps, les enfants. Hein.
80.
80.
100.
100.
Voilà, donc j'ai levé les 5 doigts de ma main droite. Maintenant, voilà. On continue avec la main gauche. Donc, premier doigt, 120.
120.
140.
140.
160.
160.
180.
180 et...
200, j'ai levé mes 10 doigts et j'en suis donc à 200.
Voilà, en effet, ça fait 200. Et si on observe les résultats, on s'aperçoit que 2 multiplié par 10, ça fait 2 dizaines. 2 dizaines, 0 unité. Que 5 multiplié par 10, ça fait 5 dizaines. Donc 5 dizaines, 0 unité. Que 20 multiplié par 10, ça fait 20 dizaines, etc., etc. Et donc 20 dizaines, 0 unité. C'est toujours comme ça. Finalement, on s'aperçoit que multiplier un nombre par 10, ça revient juste à mettre un 0 à droite de ce nombre dans la colonne des unités. Donc 2 fois 10, on met un 0 à côté du 2 à droite, ça fait 20. On continue pour voir si vous avez compris. Vous allez donc prendre vos ardoises et je vais vous proposer quelques multiplications par 10. Vous écrirez le résultat. On y va ?
C'est parti.
Allez, le premier, c'est 8 fois 10.
Alors, on utilise la méthode rapide. Vous écrivez 8 et vous mettez un 0 à droite et ça fait donc 80.
Bravo, 8 fois 10, ça fait effectivement 80. Allez, un deuxième. 14 fois 10.
Alors, 14 fois 10. Donc, on écrit 14, on met un 0 à droite et ça fait donc 140.
140, bravo, c'est ça. On en fait un petit troisième, un dernier. Donc, 30 fois 10.
Alors, 30 fois 10. Donc, on écrit 30, on met un 0 à droite et ça fait donc 300.
Voilà, vous avez donc compris comment, très très rapidement, on multiplie un nombre par 10. Et pour multiplier un nombre par 100, c'est le même principe. Sauf que 100, ça s'écrit avec deux zéros.
Donc il faudra mettre deux zéros aussi dans le résultat.
Exactement, tout à fait. Donc, par exemple, 2 fois 100, ça fait, Chantal
200, 2 suivi 200. De 2 zéros.
Voilà, parfait.
Et Laurence, l'étape de 10, 100 et même 1000, on ne les apprend pas contrairement aux autres.
Effectivement, on ne les apprend pas. On rajoute très vite un zéro dans sa tête et c'est très simple. Les plus grands maintenant, j'espère que vous les maîtrisez, cette table de multiplication par 100. Car nous allons en avoir besoin pour travailler sur les pourcentages.
Alors Laurence, qu'est-ce que c'est un pourcentage ?
Alors en fait, quand on veut désigner une partie d'une quantité totale, on peut l'exprimer en pourcentage. C'est-à-dire par rapport à une quantité totale qui serait égale à 100.
Par exemple,
50%, 50 par rapport à 100, c'est la moitié, on est d'accord.
On est d'accord.
Donc en mathématiques, 50 par rapport à 100, cela se dit 50%. Et cela s'écrit 50, et à côté, une barre oblique qui monte vers la droite, un petit rond en haut et un petit rond en bas.
Voilà, c'est l'icône qu'on retrouve très très fréquemment à côté des chiffres, des soldes par exemple, quand on fait les magasins, voilà,
oui,
30% de réduction, on voit 30 suivi de ce petit dessin que vous venez de décrire, Laurence.
Voilà, et donc 50 par rapport à 100, finalement, on se retrouve dans une situation de proportionnalité. Et finalement, trouver un pourcentage, ça se fait facilement quand on a compris la règle de 3.
Voilà, on en revient à cette fameuse règle de 3. Il faut juste bien comprendre où placer les nombres. Et vous allez nous proposer un petit problème pour illustrer cela.
Oui, en effet. Donc, dans une classe, il y a 12 filles. Le nombre de filles représente seulement 30% de l'effectif total. Combien y a-t-il d'enfants au total dans cette école ?
Alors, je répète cet énoncé. Dans une classe, il y a 12 filles. Le nombre de filles représente seulement 30% de l'effectif. Combien y a-t-il d'enfants au total dans l'école ? Laurence, je pense qu'il faut d'abord expliquer ce que signifie ce terme, 30%.
Ah oui, 30%. Cela veut dire que s'il y avait un total de 100 enfants, donc un effectif total de 100 enfants, il y aurait 30 filles. C'est vraiment important de comprendre que le terme « pourcent » signifie sur un total de 100 ou par rapport à un total de 100. Donc si on reprend le fonctionnement de la règle de 3, les enfants, vous allez tracer deux colonnes. Une première colonne qui va s'intituler « filles », dans lequel on marquera le nombre de filles. Et une deuxième colonne qui va s'appeler « total ». Ensuite, on dessine nos quatre ronds, c'est-à-dire deux ronds l'un sous l'autre dans la colonne « filles » et deux ronds l'un sous l'autre dans la colonne « total ». Voilà, nous allons vous relire l'énoncé et je vous propose, les enfants, de remplir seuls les ronds, en commençant par mettre les nombres au fur et à mesure qu'on vous les dicte. Donc, dans une classe, il y a 12 filles. 12 filles. Le nombre de filles représente seulement 30% de l'effectif total, donc 30 filles sur 100. Combien y a-t-il d'enfants au total à l'école ? Donc vous avez bien mis normalement 12 sous filles. 30, juste en dessous de 12. Et dans la colonne totale d'enfants, en bas, vous avez dû écrire 100. Il n'y a donc rien à côté des 12 filles et rien au-dessus de 100 dans le total.
Voilà, il y a un des cercles qui reste vide pour l'instant.
Voilà. Donc maintenant, vous allez relier les nombres pour former une croix. Et la règle de 3.
Vous vous souvenez, donc c'est multiplier, diviser et on obtient le résultat.
Voilà, donc on multiplie d'abord les deux nombres reliés. 12 fois 100. 12 fois 100, c'est facile, on vient de le revoir.
1200.
Ça fait. Voilà. Puis on divise par le nombre qui est tout seul. C'est toujours comme ça.
Donc 1200.
Voilà.
Divisé par 30.
1200 divisé par 30. Alors là, on n'a pas de calculatrice, donc on va simplifier son opération pour la calculer de tête. Puisque diviser par 30, c'est comme diviser par 10, puis diviser par 3, on va commencer par faire 1200 divisé par 10. C'est comme quand on multiplie par 10, c'est très simple. Mais là, au lieu d'ajouter un 0 à droite, on va enlever le zéro des unités. Donc 1200 divisé par 10, ça fait
120.
120, voilà. Puis on divise 120 par 3. On sait que 12 divisé par 3, ça fait 4. Il faut toujours utiliser ce qu'on connaît en fait en mathématiques. Donc 120 divisé par 3, c'est égal à
40.
Voilà. Le résultat est donc 40. 1200 divisé par 30, ça fait 40. Et où est-ce qu'on va mettre ce 40 ?
Eh bien, on va le mettre dans le rond qui était vide, c'est-à-dire le rond au-dessus de 100 dans la colonne effectif total.
Voilà. Donc, on sait que la réponse à la question qui était « Combien y a-t-il d'enfants au total à l'école ?» Dans cette école, il y a 40 enfants.
Et comme toujours, on vérifie.
Et comme toujours, on vérifie. Alors, on vérifie. Donc, 12 fois 100, ça fait 1200. Et 30 fois 40, ça fait aussi 1200. Donc, c'est parfait.
On a tout bon.
On a tout bon. Donc, dans cette école, il y avait 12 filles sur 40. Voilà, 30%. Mais comme Chantal et moi, comme vous et moi, nous sommes des personnes très curieuses, nous aurions envie de connaître un peu mieux vos familles. Nous allons donc vous demander, en utilisant ce que nous venons d'apprendre, quel est le pourcentage de filles dans votre maison.
Et le fonctionnement donc va être le même. Vous allez dessiner 4 ronds, 2 en haut et 2 en bas.
Voilà, faire 2 colonnes. Donc, sur la première ligne, dans les ronds, à gauche, vous écrirez le nombre de filles. Filles, on va écrire en haut de la colonne filles. Et à droite, le nombre total de personnes dans votre maison. Vous n'oubliez pas de vous compter, surtout. Sur la deuxième ligne, vous n'écrirez rien dans le premier rond, puisque c'est justement le pourcentage qu'on cherche. Mais vous écrirez 100 dans le rond de droite. Donc, on n'a rien. On a 3 ronds vides pour l'instant, et 100 dans le rond qui est en bas à droite. Alors moi, par exemple, dans ma famille, puisque j'ai une fille, un mari, et deux garçons, mon calcul, ce sera 2, puisque moi, je compte comme une fille. Je vais, moi, écrire 2 dans la colonne des filles en haut. Dans le total, je vais écrire 5. Et ensuite, je vais faire le calcul. 2 fois 100 divisé par le total, divisé par 5. Donc 200 divisé par 5, ça fait 40. Il y a donc 40% de filles dans ma famille. Et même si je n'ai pas envie de recompter, je dois toujours au moins vérifier que mon résultat est possible. Et pour ça, Chantal, vous devez toujours avoir en tête, et les enfants, que 50%, ça correspond à la moitié. Donc 40% de filles dans ma famille, c'est possible, puisqu'on est moins de la moitié, on est 2 sur 5.
Bon, j'espère que nos petits élèves à la maison auront réussi. Laurence, pour Nicolas à Mbujimaï, en RDC, a une question pour vous. Dites-nous, comment il est possible de parler, par exemple, d'une hausse de 400%?
Ah, une hausse, c'est donc une augmentation. Alors, il faut en fait reprendre... On pourrait prendre un exemple et on va l'expliquer rapidement. Et on répondra à ces questions après. Si un article vaut 100 francs CFA et qu'il subit une augmentation de 100%, on peut dire qu'il subit une augmentation de 100 francs CFA. D'accord ? Donc, le prix de départ plus l'augmentation, l'article, il va alors coûter 200 francs CFA.
Ok, je vous suis.
Une augmentation de 100%, c'est une multiplication par 2, donc. Si l'augmentation, elle est de 400%. 400 divisé par 100, ça fait 4. Donc on est d'accord. Elle sera de 4 fois le montant de départ. Donc 400 francs CFA. Et on ajoute le prix de départ. Donc l'article vaut alors...
500 francs CFA.
Voilà, exactement. Faut toujours avoir à l'idée, oui.
Est-ce qu'on peut prendre un autre exemple avec 600 euros d'augmentation, par exemple?
600 euros, 600%?
600%, 600% d'augmentation,
oui,
voilà.
600%. Alors, 600 divisé par 100, c'est très simple de faire 600 divisé par 100, on enlève les deux zéros, et donc on va multiplier par 6. Donc, si l'article valait 100 francs CFA au départ, on le multiplie par 6, ça fait 600. Ça, c'est juste le montant de l'augmentation. Et on va rajouter le prix de départ. Donc, 600, une augmentation de 600%, ça revient à multiplier par 7.
Donc, notre produit, au final, coûtera 600 francs CFA plus 100 francs CFA. Donc,
exactement.
700 francs CFA, c'est bien
voilà.
Ça?
Oui, c'est ça, 700 francs CFA. En fait, effectivement, 100% du prix d'un article, c'est le prix lui-même. Mais l'augmentation de 100%, c'est le prix plus le prix. Donc, c'est deux fois le prix.
Très bien, bah j'espère qu'on a bien répondu donc à la préoccupation de Nicolas qui nous écrivait de Mbujimaï en RDC. Et puis si vous voulez prolonger cette leçon sur les pourcentages, eh bien entraînez-vous chez vous avec par exemple cette question dans votre école, quel est le pourcentage de filles ou quel est le pourcentage de garçons? Amusez-vous à le calculer et postez le résultat sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Laurence Girard-Guilaine pour cette séance sur les pourcentages et je vous dis à bientôt.
Merci Chantal, à bientôt, au revoir.
Bonne journée.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte. Ouvre tes yeux, prends. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte. suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je m'en ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. Ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse.
Facile, le dernier single très pop de Camélia Jordana sur RFI. Vous écoutez 7 milliards de voisins, l'école à la radio. C'est l'heure de la récré.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
La lune errante. Une histoire de Dany Laure Niazalé. Collection Contes des quatre vents aux éditions L'Harmattan. Il y a très, très, très longtemps, la lune n'habitait pas dans le ciel des hommes. Elle ne faisait qu'y passer. Elle errait dans l'univers sans jamais s'arrêter nulle part. Mais régulièrement, après de longs, longs, longs mois d'absence, elle réapparaissait dans le ciel des hommes pour faire une petite escale de quelques nuits. Puis elle reprenait la route, ou plutôt la voie lactée. Quand elle était là, les hommes faisaient des veillées au cours desquelles ils racontaient de belles histoires, car la nuit était moins sombre et paraissait moins inquiétante. Les animaux aussi appréciaient sa lumière. Ils pouvaient alors aller et venir à leur guise, sans se cogner, tomber dans un trou ou finir dans la gueule d'un prédateur. Même la nature l'affectionnait. Sa clarté la rendait plus belle, plus douce. Et son reflet sur l'eau était si agréable et si beau. Les hommes aimaient la présence de la lune et auraient voulu qu'elle reste. Mais que faire pour la convaincre de rester dans leur ciel ? Hommes et bêtes se réunirent à la lisière de la forêt pour en discuter. Tout le monde, du plus grand au plus petit, donna son avis. Cela dura 3 jours et 3 nuits. Au matin du 4e jour, on donna la parole aux enfants. Ils firent alors remarquer que la lune n'avait pas de raison de rester car elle n'avait pas d'amis avec qui jouer. C'était logique. Alors tous décidèrent que la lune devait se lier d'amitié avec les habitants de la Terre. Oui, mais comment ? Et avec qui ? Quand la lune était là, le soleil n'y était pas. Ils s'étaient bien rencontrés une fois, mais il avait fait nuit en pleine journée. Et le soleil n'avait pas apprécié de ne plus briller sur la Terre. Depuis, la lune et lui s'évitaient. Les nuages ? Ce n'était même pas la peine d'y penser. Ils restaient toujours entre eux et s'effilochaient au moindre courant d'air. Le vent, quant à lui, était trop versatile et trop occupé à souffler d'un bout à l'autre de la terre. Le conseil des enfants lança un avis sur toute l'étendue de la terre pour trouver des volontaires. Qui accepterait de quitter les siens pour devenir l'ami de la lune et lui donnerait envie de se fixer dans le ciel ? Les jours passaient et personne ne se décidait. Ni homme, ni bête. Personne ne voulait quitter le lieu où il était né et où il avait grandi. Personne ne voulait abandonner sa famille, ses amis et ses occupations quotidiennes. Les jours passaient et le retour de la lune approchait. Les hommes et les animaux commençaient à se résigner, à voir de nouveau la lune passer sans se fixer dans le ciel. Le peuple des eaux avait été informé en dernier de ce qui se tramait à la surface. La question avait été longuement débattue et les habitants des eaux étaient arrivés à la même conclusion que ceux de la surface. Mais tout comme eux, personne n'était prêt à tout laisser pour aller vivre aux côtés de la lune. Personne, ou presque. En Côte d'Ivoire vivaient Iris et Esther, l'aînée et la benjamine d'une ribambelle d'étoiles de mer. À la naissance d'Esther, leur mère, qui avait fort à faire avec tous ses autres enfants, l'avait confiée à Iris, sa fille aînée. Cette dernière s'en était occupée comme de sa propre fille. Les deux sœurs s'adoraient et étaient inséparables. Une nuit, Iris fut attirée par une étrange clarté à la surface de l'eau. C'était la lune qui se reflétait tout doucement à la surface de la mer. Ignorant toutes les consignes de sécurité, les deux petites étoiles de mer se faufilèrent à travers le ray de lumière jusqu'à la surface. Là, elles furent éblouies par la beauté et la grâce de la lune. Cette dernière, se sentant observée, se pencha, vit ces deux petites créatures et leur sourit. Depuis, à chaque fois qu'elle passait au-dessus de la Côte d'Ivoire, la lune errante s'arrêtait quelques instants pour rencontrer Iris et Esther qui étaient toujours au rendez-vous. Quand elles apprirent qu'on recherchait des amis pour la lune, les deux petites étoiles de mer ressentirent une grande joie. Elles se portèrent aussitôt volontaires, au grand désespoir de leurs parents qui, en vain, tentèrent de les dissuader de partir. C'est par une belle nuit qu'Iris et Esther, les petites étoiles de mer, allèrent rejoindre la lune qui était de retour. Attirées par elle, elles s'élevèrent à la vitesse de la lumière. Tous les habitants de la terre, ébahis, virent alors passer pour la première fois dans le ciel des étoiles filantes. La lune, quant à elle, fut si contente d'avoir à ses côtés des amis avec qui partager ses nuits qu'elle leur fit cadeau d'un peu de sa clarté pour qu'elle puisse scintiller. Elle ne voulait pas abandonner ses nouvelles compagnes ni les éloigner de leur famille en leur demandant de la suivre à travers l'univers. C'est depuis ce temps-là que la lune cessa d'errer dans l'univers et s'installa dans le ciel des hommes. Au fil du temps, d'autres étoiles de mer suivirent l'exemple d'Iris et d'Esther et vinrent s'installer à leur côté.
La Lune errante, racontée par la comédienne Héloïse Auria, écrite par Dany-Laure Nazalet, est publiée dans la collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. Hier, on a travaillé avec Catherine Fournier sur les jeux de langage et vous nous avez envoyé vos poèmes. Alors, je vais en lire quelques-uns. Celui d'Abel à Lomé. J'écoute l'école à la radio en faisant mes travaux dans le bateau et c'est rigolo. Le poème de Jackie à Goma. J'écoute l'école à la radio en faisant des gâteaux pour mon ami Sadio. Et puis le poème d'Eugène à Conakry, en faisant mes devoirs en portfolio, c'est ainsi qu'on m'a appris et vous ne serez pas surpris lorsque vous retrouverez des idiots. Et puis on a reçu un autre message de Couquet à la Pointe-Noire. J'aime bien votre émission et je vous suis au quotidien. L'école à la radio me rappelle surtout l'école primaire. Bravo pour cette belle initiative. Ça aide beaucoup les élèves et pas seulement les élèves. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Coup de chapeau. Et merci à vous, Couquet, pour ce chaleureux message. Si vous avez vous aussi écrit des poèmes, inventé des rimes ou des acrostiches, n'hésitez pas à nous les envoyer par écrit ou alors en message audio sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins, on est ensemble.
On retrouve maintenant en ligne d'Abidjan Didier Akwété, président du groupe Afrique Search. Bonjour Didier.
Bonjour, comment ça va?
Eh bien ça va bien, et vous-même à Abidjan?
Eh bien jusque-là oui, un peu de soleil, ça change des jours pluvieux.
Et ben chez
il y a
nous...
eu ces derniers jours.
Et ben chez nous aussi, à Issy-les-Moulineaux, il fait beau. Alors aujourd'hui, Didier, vous avez choisi de vous adresser à nos auditeurs entrepreneurs qui s'interrogent. Doivent-ils diversifier leur activité après la crise? D'abord, Didier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la diversification et l'intérêt qu'elle représente pour l'entreprise dans un contexte économique qui s'annonce plutôt difficile dans certains secteurs?
Absolument, absolument. La diversification, c'est également un axe pour les entreprises pour trouver une voie de salut sur ce marché qui s'annonce un peu compliqué. Et donc, généralement, c'est la décision d'une entreprise d'entrer dans un nouveau domaine d'activité ou alors de rester dans le même secteur d'activité mais avec des produits différents. Mais la vraie diversification, c'est vraiment arriver à faire coexister plusieurs métiers que l'entreprise va développer en parallèle. Et ça peut avoir plusieurs avantages, hein, surtout dans ce contexte de crise. Le premier avantage, c'est que ça permet quand même de gagner plus d'argent, donc d'augmenter son chiffre d'affaires et sa rentabilité en essayant d'aller sur un marché qui sera peut-être plus profitable que l'ancien, d'accélérer sa croissance, aussi de mieux répartir les risques liés à l'activité. Et comme on l'a vu, certains secteurs ont beaucoup souffert de la crise, mais aussi de diversifier ses clients. Et pourquoi pas d'optimiser ses coûts sur le long terme. Donc, ça comporte quand même quelques avantages.
Didier, est-ce que vous avez un ou deux exemples récents de diversification qui vous semblent être un succès?
Alors, pendant la crise, on a vu dans plusieurs pays, même en France, aux États-Unis ou au Maroc, en Afrique du Sud, des entreprises qui, par exemple, fabriquaient des produits de beauté, donc qui étaient dans le secteur de l'industrie de la beauté, et qui ont commencé à produire des gels hydroalcooliques. Nous avons vu des entreprises qui étaient dans le textile en général, qui ont commencé à fabriquer ces masques de protection, ou alors des entreprises dans l'industrie automobile qui ont commencé à fabriquer des appareils respiratoires. Donc ça a été les cas les plus emblématiques pendant la crise. Mais moi, j'ai vu également des petites entreprises, pas forcément des grandes industries. Par exemple, à Abidjan, une petite agence de voyage, tous les voyages ayant été stoppés, qui a lancé une supérette de produits alimentaires, puisque les gens consommaient malgré la crise. Donc voilà quelques exemples de diversification industrielle et puis à l'échelle de petites entreprises que nous avons observées sur le marché quand même.
Alors je suppose que la diversification n'est pas sans risque pour l'entreprise. Quels peuvent être les inconvénients de cette stratégie?
Alors, c'est vrai, c'est pas toujours gagné, puisque il n'est pas certain que votre diversification soit un succès. Quand vous diversifiez, vous allez investir, donc vous allez prendre des nouveaux risques. Et donc, le risque d'investissement important pour aller sur un nouveau domaine d'activité peut être aussi symbole d'échec. Si vous ne comprenez pas bien le marché ou si vous ne vous prenez pas très bien quand vous rentrez sur ce marché, ça peut générer donc des coûts élevés, donc ça peut fragiliser quand même votre entreprise. Vous allez aussi demander à vos, peut-être à vos collaborateurs d'aller sur ces activités qu'ils ne maîtrisent pas. Donc il y a aussi un risque de dispersion de compétences, de ressources ou d'inadéquation entre les ressources humaines que vous avez ou même les ressources organisationnelles que vous avez, parce que la diversification nécessite d'aller sur des nouvelles lignes d'activité que peut-être vous ne maîtrisez pas bien. Ou alors peut-être vous avez ce qu'on appelle un mix marketing qui n'est pas bien élaboré. Vous savez, dans ce mix, il y a bien sûr le produit, il y a la distribution, il y a le positionnement, il y a le prix qui sont autant d'éléments qu'il faut prendre en compte, sans compter bien sûr les clients qui ne seront peut-être pas tout à fait ouverts à ce nouveau produit ou à votre nouvelle offre de service sur ce marché.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se lancer sans business plan et sans former ses collaborateurs.
Alors surtout pas Chantal, parce que c'est quand on dit diversifier, hein, la diversification c'est vraiment, comme je disais en introduction, changer d'environnement concurrentiel, changer parfois d'environnement de production, donc vous allez complètement sur un secteur qui n'est pas peut-être celui que vous connaissez habituellement. Il y a des entreprises qui parfois le réussissent un peu mieux. Quand vous restez dans le même secteur d'activité, imaginez que vous soyez dans l'agroalimentaire, que vous proposiez des jus, du jus d'orange, et vous décidez de produire, enfin d'offrir du jus à base de pommes ou de bananes ou d'autres fruits. Vous restez quand même dans un secteur que vous connaissez un petit peu. Et on avait vu avec un exemple JPAG, quelqu'un qui était au Bénin, qui faisait la confiture, je crois, de fraises ou d'un produit, et puis qui voulait aller sur un autre produit, mais qui restait quand même dans le marché agro, avec les mêmes distributeurs, il utilisait les mêmes machines pour produire également ce jus en question. Donc, il limitait quand même le risque de la diversification de son activité. Mais quand vous changez complètement de secteur, c'est plus risqué. Et je me souviens toujours quand nous étions en business school dans les années 80 à Paris, il y avait une fameuse marque de stylo. Et évidemment, tout le monde dit Bic, mais c'était effectivement une marque de stylo qui avait lancé un parfum. Ils voulaient diversifier. Ça a été un échec cuisant parce que les gens ne sont pas reconnus dans ce produit. Donc attention quand on change de secteur en matière de diversification.
Alors, quelles sont les formes de diversification qu'une entreprise peut envisager dans le cadre de cette reprise progressive des activités ?
Alors, il peut en avoir plusieurs. Je vais peut-être en citer deux ou trois. Comme je disais, on peut faire une diversification au niveau des produits. Hein. On peut aussi faire une diversification géographique. Mais ce qu'on appelle les diversifications, c'est par exemple une diversification horizontale. Ce qu'on appelle la diversification horizontale, en fait, induit une production en développant de nouveaux produits. Hein, c'est-à-dire, vous allez affecter des technologies, des moyens de production à ces produits-là, mais vous gardez quand même votre système de production. C'est l'exemple que je donnais pour cette entreprise du Bénin à l'époque qui voulait faire... Donc je crois que c'était de l'alcool, c'est pas de la confiture. Ils voulaient faire un alcool à base de noix de cajou, et ils l'ont faisait à base de ne sais plus quel produit, mais là, ils gardaient les mêmes outils de production qu'il avait. Donc, c'est un peu moins risqué, et généralement, on va s'adresser, en guillemets, à une clientèle qui n'est pas très loin de l'autre. Il y a ce qu'on appelle ensuite la diversification verticale. Et en fait, dans la diversification verticale, on essaie de faire l'acquisition des maximums de maillons d'acteurs dans la même filière. Donc, une entreprise qui, par exemple, veut réduire sa dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs peut décider de se diversifier dans l'intégration aval. Bon, on le voit, par exemple, dans l'industrie automobile, hein, où une entreprise qui produit, je sais pas, peut-être des portières de voiture peut décider de produire aussi des sièges, etc. Bon, c'est c'est peut-être pas forcément la meilleure diversification, parce que c'est les coûts. Mais en tout cas, quand on fait une diversification verticale, on essaie de remonter dans sa chaîne de valeur, en essayant une intégration en amont. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi la diversification concentrique. Alors, c'est un peu différent, c'est-à-dire c'est une diversification qui se caractérise par des étapes successives où l'entreprise peut intégrer des nouveaux produits ou services pour une clientèle identique, mais va utiliser une technologie différente de celle qu'elle utilisait jusqu'à présent. Donc, elle va rentrer dans une nouvelle activité qui s'adresse à sa clientèle, mais avec des outils de production qui peuvent être complètement différents. Donc, ça nécessite un peu plus d'investissement. Et puis, il y a ce qu'on appelle, par exemple, la diversification conglomérée. Bon, là, on commence à aller dans des choses un peu plus sophistiquées, où vous rentrez sur un marché où vous n'avez aucune expérience avec des activités qui n'ont aucun lien entre celles que vous avez jusque-là. Et là, c'est vraiment du risque à 100%, et c'est pas forcément évident pour les entreprises d'aller dans ces domaines s'ils n'ont pas beaucoup de ressources financières, beaucoup de ressources humaines, et puis des compétences distinctes. Donc c'est quand même
un peu risqué
pour des gros acteurs. Quoi. Voilà quelques idées de diversification.
Merci beaucoup Didier Akwété, président d'Afrique Search et coach de 7 milliards de voisins. Bonne journée à Abidjan et à la semaine prochaine.
Merci Chantal.
À bientôt. Demain, leçon de grammaire avec Marie-Christine Aubin. Quand doit-on écrire l'heure avec un S et l'heure sans S? Vous êtes nombreux à avoir demandé cette leçon. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Cécile Lavolo, Sigrid Azeroy, Romain Dubrac, et ici en studio avec moi Nicolas Benita. À demain et portez-vous bien. Continuez à nous écrire ou à nous laisser des messages audio sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. À demain.